Je ne vais pas pouvoir faire la deuxième partie de ce que je voulais faire. Alors, je peux commencer par deux remarques, deux questions. Sur cette dimension ethnique par rapport à religieuse, parfois on dit en français « judaïté ». En fait, en allemand, en français, en anglais, on a fabriqué des mots qui correspondent plutôt à l'aspect national ou plutôt à l'aspect religieux. Par exemple, en anglais, vous allez dire « Jewishness », la judaïté, pour ne pas dire justement « judaïsme », qui est plus l'aspect religieux. Donc, c'est un curseur. Donc, dans l'histoire juive, clairement, ça a beaucoup oscillé. En France et en Allemagne, entre 1890 et 1910, les Juifs se présentent comme citoyens français ou citoyens allemands de confession mosaïque, comme on est de confession protestante catholique. On tire le curseur complètement du côté religieux, mais au plan national, je suis un bon français, un bon allemand. Et c'est ça qui est cassé par l'affaire Dreyfus. Ils ont beau dire qu'ils sont français ou allemands, en fait, ils sont juifs. Donc c'est toujours la cinquième colonne, l'accusation. Et puis, évidemment, aujourd'hui, vous avez presque le paradoxe dans l'autre sens. Vous avez des Israéliens qui se disent Israéliens, mais qui ne sont pas du tout religieux. Alors, il y a un très bon film que je vous recommande là-dessus qui s'appelle « Deux frères », qui a une vingtaine d'années. Donc, c'est deux frères qui étaient juifs argentins. L'un est devenu religieux orthodoxe à New York, il vit à New York, et l'autre est dans un kibbutz totalement laïque en Israël. Et le frère religieux, qui est avocat, vient pour défendre ce qui est toujours le problème politique central en Israël jusqu'à aujourd'hui, l'exemption des religieux du service militaire, la loi Tal. Donc, il vient défendre les élèves des yeshivas. Et il dit à son frère laïque, mais tu as la chance incroyable de vivre en Israël. Pourquoi tu ne pratiques pas? Pourquoi tu n'es pas religieux? Ça, c'est absurde de vivre sur cette terre comme un Népalais bouddhiste, quoi. Donc il reproche à son frère, et son frère lui dit « Oui, mais c'est facile, toi tu vis à New York, déjà, donc pourquoi tu me dis ça ? Moi j'applique le premier commandement, je suis sur la terre. » Et à un moment, il y a ce dialogue génial, il y a le frère de New York qui lui dit « Aval ata yehoudi ! Mais tu es juif !» Et l'autre le regarde droit ddans les yeux et lui répond « Lo ani israeli, non, je suis israélien. » C'est-à-dire la déconnexion complète de l'identité ethnique et religieuse, qui était au fond la définition de Ben-Gourion en 1948. Qu'est-ce qu'un État juif? C'est un État où des policiers juifs gardent des voleurs juifs dans des prisons juives. Ce qui est un Samuel 8. Nous sommes un pays comme les autres. Voilà. Deuxième question, l'impact de la Shoah. J'en dis un petit mot là, en haut de la page, mais capital. Hein. Donc 18 millions de juifs en 39, 6 millions de morts. Donc déjà, c'est un tiers. Mais ça, c'est ce qu'on voit, c'est que l'extérieur. Ce qui est le plus important, c'est que 80% du judaïsme confessant religieux a été détruit. Parce que le poumon spirituel du judaïsme en 1939, c'est les racines, c'est l'Europe de l'Est. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Australie, beaucoup de juifs sont déjà très très assimilés. Donc moi je dis, c'est comme l'Église catholique, vous la prenez en 1960, et vous exterminez 95% des prêtres, des évêques, des religieuses, et 80% des laïcs catholiques pratiquants. Et après, vous dites, vous redémarrez. Ben, ça va être compliqué, parce que vous redémarrez avec les gens qui sont les moins religieux. Donc évidemment, l'impact de la Shoah est colossal, d'abord au plan religieux, et puis, ça a un impact encore aujourd'hui dans la politique d'Israël, hein, il faut détruire ceux qui veulent nous détruire avant qu'ils le fassent. Alors, on peut critiquer, par exemple, Trump sur ce qu'il fait actuellement sur l'Iran. Et la position de Netanyahou, si je puis dire, est un poil plus logique et existentielle. Les Iraniens ne peuvent pas détruire les États-Unis. Bon, quand on dit oui, mais enfin quand même, les Israéliens, ils surréagissent. Ben, ils surréagissent, d'accord, mais il y a un gouvernement qui, depuis 1979, dit on veut détruire Israël, on va détruire Israël, on travaille pour détruire Israël. Et ils ont un programme nucléaire, tout le monde le sait. Donc on peut dire aux Israéliens, vous surréagissez, oui, mais ils jouent leur peau. Ils jouent leur existence, tout petit Israël. Il faut comprendre ça aussi. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils y soient arrivés à détruire le programme nucléaire, mais en tout cas, c'est une des traductions de ce que fait Netanyahou, c'est plus jamais la Shoah. Voilà. Donc, plus jamais on rasera les murs, plus jamais on ne sera humilié, plus jamais on ne sera dominé. Donc, c'est là que je reviens à la politique asmonéenne. On se défendra. Et dans l'identité des Israéliens, il y a quelque chose de l'ordre de la force, d'une politique de la force. Alors, sur le Messie, voilà, deuxième chose aussi que j'aime à dire après, première affirmation à retenir de la matinée, le judaïsme est basé sur le Talmud, enfin, le judaïsme tel que nous le connaissons depuis 1700 ans. Deuxièmement, dans la religion juive, la question du Messie et de sa venue joue un rôle faible ou nul. Alors, on peut contester ça. Il y a certains courants juifs dans lesquels, les Lubavitch par exemple, le Messie est assez important. Si vous allez en Israël depuis 20 ans, sur les murs, sur les autoroutes, sur les poteaux, vous avez des affiches bleues et jaunes avec le visage du rabbi de Lubavitch. Et en bas, il y a « Amasherbo, Amasherbo, Amasherbo ». Le Messie vient, le Messie vient, le Messie vient. Alors les autres juifs arrachent, ça les énerve beaucoup. Voilà. Mais en règle générale, le judaïsme, les rabbins du Talmud ont voulu calmer les attentes messianiques et ne pas trop parler du Messie. Au point que quand je vous ai mis aussi dans les feuilles, je vous ai donné les 13 articles de foi de Maïmonide, qui est l'équivalent, ce qui se rapproche le plus d'un credo qu'on peut trouver dans la tradition juive. Mais, comme ce n'est pas un concile œcuménique, mais juste Maïmonide, des rabbins très importants ont critiqué Maïmonide. Et notamment, l'article 12, « Je crois d'une foi entière à la venue du Messie, et même s'il tarde, j'attendrai chaque jour sa venue », ils ont dit « Mais ça, ce n'est pas dans la foi biblique ». Hein, je peux espérer qu'il y ait un pape français, enfin bon, c'est pas un article de foi, enfin, ou je peux espérer que, je sais pas moi, les musulmans se convertiront un jour au christianisme, j'ai le droit de l'espérer, il n'y a aucun problème, hein. Enfin, c'est pas un article de foi. Voilà, là il y a une cette affaire du Messie. D'ailleurs, pour une autre blague que j'aime beaucoup, au moment où Rami Menachem Schneerson était déclaré Messie par certains de ses partisans, donc 93-94, il y a des évangéliques américains qui ont acheté des panneaux publicitaires sur les autoroutes en Californie, où ils ont fait comme les Loubas, c'est-à-dire qu'ils ont mis en fond, pas en vraie image, mais en subliminal, vous avez le visage du rabbi de Lubavitch derrière. Et simplement, le message en gros, c'était « Good idea, wrong person, phone » avec le numéro de téléphone. Donc, bonne idée, il y a un Messie, mais ce n'est pas Menachem Schneerson, c'est Jésus. Donc, appeler, téléphoner, c'est quand même assez malin. Voilà. Face aux déceptions suscitées par les faux Messies dans l'histoire, les rabbins ont découragé l'attente du Messie, proposant plutôt de favoriser la venue des temps messianiques caractérisés par la justice et la paix. C'est un grand argument des disputes du Moyen-Âge. Les rabbins disent toujours aux chrétiens, les prophéties d'Isaïe ne sont pas là, donc les temps messianiques ne sont pas là, donc voilà, terminé quoi. Au 1er siècle, certains juifs ont reconnu en Jésus le Messie, ça c'est sûr, mais beaucoup attendaient aussi un Messie chef de guerre, et comme j'aime à dire, beaucoup de juifs n'attendaient rien du tout. Tous nos catéchismes catholiques, moi ça m'énerve. Les juifs attendaient le Messie. Non, beaucoup de juifs n'attendent personne. C'est comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas le... Certains, oui. En 132, il y a eu Shimon Bar Korba qui a été tué. Et puis, en 1666, un faux Messie qui a une importance très grande, pas que je me lance trop sur lui, Sabbatai Tzvi, qui a beaucoup compté dans l'émergence du racisme. Alors, à l'intérieur de la Bible juive qu'on appelle le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, c'est loi, prophète, écrit, la tripartition, c'est la Torah qui est la plus importante, qui est lue in extenso durant une année liturgique. Et donc elle a la priorité au plan liturgique, théologique, dogmatique, tout ce que vous voulez. Même si les rabbins accordent aussi une grande place aux autres livres. Donc vous pouvez aller à la synagogue tous les jours de votre vie sans jamais entendre Isaïe 53. Notez, les chrétiens, on ne lit pas ça tous les matins, on lit ça le vendredi saint. Notez, c'est un jour important, donc intérêt qu'on s'en souvienne, mais voilà, on peut ne pas tout lire. pour dire de manière frappante le contraste entre le christianisme et le judaïsme, moi j'aime à dire, c'est une formule que j'ai sortie dans un papier il y a une quinzaine d'années, le christianisme est un isaïanisme. Le prophète important, c'est Isaïe. Donc pour nous, d'une certaine manière, les prophètes, c'est plus important que la Torah, si j'exagère un peu, mais évidemment, mais c'est très très important. Le christianisme, c'est un messianisme juif basé sur la prise au sérieux radicale des paroles des prophètes, par Jésus lui-même, puis par ses partisans. Donc le judaïsme, lui, c'est la Torah. Alors après, un petit truc sur la famille, c'est très important. Le judaïsme accorde une grande place à la famille et au culte domestique, on va dire, où se célèbre l'essentiel des fêtes. Par exemple, Pâques, c'est essentiellement une fête familiale. Le jour où on va à la synagogue, c'est plutôt pour Kippour, pour l'office de Nehila. Donc on appelle ça les Juifs de Kippour. C'est un peu les catholiques qui vont au Rameau ou à Noël ou à la Toussaint, mais pas forcément à Pâques. Ça, c'est les Juifs de Kippour. Mais par contre, le repas, le moment important du culte, de la soirée pascale, c'est en famille. Voilà, donc j'ai une famille là, qui m'invite régulièrement depuis 4-5 ans, très sympa. En plus, moi, par ma mère, je suis un peu algérien. Enfin, lui, il est de Boussaada, il est plus algérois. Moi, je suis constantinois, mais bon, les anciens d'Algérie, c'est un monde, je ne sais pas s'il y en a chez vous, on se connaît. Enfin, voilà, bref. Voilà. Donc, les Juifs, c'est un des rares peuples du monde qui est moins nombreux aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Parce qu'en fait, à part les orthodoxes qui font ce qu'ils peuvent, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la communauté juive depuis longtemps. Donc, que ce soit les Américains, les Australiens, les Anglais, les Français, c'est des familles plutôt petites. Et voilà, donc les orthodoxes font ce qu'ils peuvent, mais cela dit, ils font ce qu'ils peuvent, pas au niveau des catholiques québécois de 1830 à 1960. Indice synthétique de fécondité entre 18 et 22 enfants par femme, pendant 4 générations, les Québécois, pour passer de 100 000 à 6 millions d'habitants. On ne comprend pas le Québec si on ne comprend pas la bataille des berceaux. Pour résister aux Anglais et aux protestants, on résiste par les naissances. Donc le prêtre devait vérifier chaque année que la femme était enceinte. Sinon, il y avait une amende. C'est ça qu'en 1966, avec la Révolution tranquille, les Québécois ont dit « on arrête tout, et maintenant il n'y a plus d'enfants ». Mais 18 à 22 enfants, ce qui est le maximum biologique. Vous êtes marié à 19-20 ans, jusqu'à 40 ans. Le maximum biologique, tu as 18-22. Donc, c'est une des rares communautés humaines qui a eu un ISF, en tout cas au-dessus de 15, pendant plus de 100 ans, pour des raisons idéologiques, hein, clairement, pour résister aux Anglais. Les catholiques hollandais ont fait ça aussi pendant la guerre des berceaux. Alors, une dernière phrase un peu provocatrice. Dans l'ensemble, le christianisme valorise la théologie du salut, là où le judaïsme donne une plus grande place à la théologie de la création. On pourrait discuter, ça peut se discuter comme formule, mais disons, c'est très important la dimension de la fécondité humaine. Enfin, pourquoi le célibat, par exemple, est interdit, alors qu'il est possible, même valorisé dans la tradition chrétienne. Ça traduit bien la chose, parce que le célibataire dit Dieu donne la vie, Dieu peut rendre la vie, enfin la discussion de Jésus avec les Sadducéens, donc notre vie, ce ne sont pas nos enfants. Dans le judaïsme, les enfants, c'est quand même très important. C'est ça que je veux dire par cette phrase. Voilà. Le judaïsme a été centré depuis le roi Josias, donc le roi Josias, c'est juste avant l'exil, donc on est au 6e siècle avant notre ère, jusqu'en l'an 70, sur le culte du temple, qui a été développé de manière incroyable, qui était une des 8 merveilles du monde. Le temple de Jérusalem, c'était un truc incroyable, grâce à ce bâtard païen d'Hérode, mais quand même, c'était un truc extraordinaire. Josias, vous pouvez me dire quelque chose sur le roi Josias ? Vous savez, vous avez entendu parler d'un commandement qui dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et puis un autre truc difficile aussi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a une personne qui a aimé son prochain comme soi-même, une, dont le texte nous dit qu'il a aimé son prochain comme lui-même, et une seule personne dont il nous dit qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces. Alors Josias, à votre avis, vous avez une chance sur deux ? Ah non, mais Ben, je ne l'ai jamais dit. Vous n'avez pas tort. C'est vrai, théologiquement, mais il n'y a aucun verset du Nouveau Testament dit ça. Non, je dis qu'il le dit. Le roi Josias a aimé le Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces. C'est le seul dont il est dit ça. Et puis, il meurt, évidemment, comme un Messie doit mourir. Comme vous avez vu, il meurt au combat, à la tête de l'armée, transpercé par une lance. Bon. Et alors, le seul homme qui a aimé son prochain comme lui-même, dans la Bible, plus dur. Ben, je vous le demande. Alors, c'est le seul homme qui est sans péché. Non, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Non, le seul homme, un homme. Celui qui aurait dû être le Messie, qui avait tout pour être Messie. Jonathan, le fils de Saül. Jonathan. C'est le seul homme dans les livres de Samuel, parce que David, il y a eu des petits problèmes. Hein, je vais pas. Bon. Saül, il y a eu des gros problèmes. Donc, non, Jonathan, il est fidèle à son père, fidèle à Dieu et fidèle à David, sans jamais trahir aucun des trois. C'est très fort. Et il va mourir avec son père. Et il n'a jamais commis le péché. Et il a aimé son prochain, David, comme soi-même. Et ça n'a rien à voir avec une histoire d'homosexuel. Rien. Bon, ouais. Depuis, il y a des synagogues. Les synagogues sont nées dans la diaspora égyptienne et perse. Il y a un peu un mystère autour de la naissance des synagogues. Ce qui est clair, c'est qu'elles existent déjà au 1er siècle avant notre ère. Mon directeur de thèse, Jean-Noël Aletti, aime beaucoup parler de ça. Enfin, la synagogue, c'est une invention quand même révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité, que j'ai bien senti du doigt en allant en Inde. Moi, j'ai eu un choc en Inde, parce que, alors je ne peux pas dire ça à mes compagnons indiens, parce qu'ils sautent au plafond, mais j'ai rencontré le paganisme. Enfin, des temples avec des divinités bizarres qui ont quatre mains, devant lesquelles on pose des bananes, enfin bref, le culte normal de l'humanité. Donc moi je dis en Inde, je respire quand je suis dans les quartiers musulmans, là je suis chez moi, là je respire. Je suis au milieu des monothéistes, quoi. Enfin, parce que l'hindouisme, c'est quand même spécial. En bref, la synagogue, en gros l'humanité, depuis que l'humanité est l'humanité, ce qu'on sait faire très bien, hein, c'est créer une espèce de temple, là, et puis on sacrifie alors des chèvres, des bananes, enfin ce qu'on a, un dieu, pour qu'il y ait un deal avec le dieu, hein, do ou des, voilà, on fait. Alors il y a des formules plus ou moins compliquées, et puis il y a des prêtres plus ou moins ordonnés qui font ce job. Lisez par exemple, fascinant, John Scheid, La religion des Romains. Comment les Romains, c'est quoi la religion des Romains? C'est ça. Donc, alors on récite des formules étrusques, plus personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. On répète des formules étrusques, et puis on coupe le poisson comme ça, la bête comme ça, et puis il faut qu'elle... D'ailleurs, les règles de la bête, c'est comme la Bible. Évidemment, il faut des animaux parfaits qui ont... Très bien. Alors, la synagogue, il n'y a pas de temple, et il n'y a pas de prêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, disent les païens? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on écoute la parole de Dieu, et puis il y a un gars qui commente, et puis on chante, et puis on fait des prières universelles pour le bien de l'Empire, pour les malades, pour les absents, pour les enfants, et puis on rechante, et puis voilà. Ah bon? C'est bizarre ça. Mais il n'y a pas de sacrifice? Ah non. Donc c'est une innovation absolument colossale, jointe à une deuxième innovation colossale, le lien entre moralité et religion. C'est-à-dire que les rabbins inventent l'homélie où on explique la parole et à la fin on dit aux gens... Attention, soyez saints, ne trompez pas votre femme, ne volez pas les commerçants du quartier, etc. etc. Parce que dans l'Antiquité, pour ce discours-là, on a les philosophes. Donc moi, je suis à Athènes, à Tars, bah, je vais faire mon petit sacrifice avec l'agneau, la colombe, le poisson, enfin, je vais au temple de machin, etc. Bon. Et quand j'ai besoin de philosophie, de morale, d'éthique, de religion, bah, d'éthique, pardon, j'ai la philosophie. Donc le fait que tout d'un coup, et c'est ça qui attire dans le judaïsme à l'époque, ça a été bien montré, pourquoi beaucoup de gens se convertissent au judaïsme, dans la diaspora, eux, ils ne voient pas le temple. Beaucoup d'entre eux, ils ne sont jamais allés à Jérusalem, jamais vu les sacrifices d'animaux dans le temple. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une religion incroyable, dans laquelle il y a un Dieu unique, qui attend une moralité et qui crée une communauté, et on va écouter cette parole, c'est génial. Et donc, voilà. Donc les rabbins sont d'abord des enseignants, puisque donc les prêtres ont un peu disparu. Alors un peu, il y a encore des petits privilèges des Cohen. Vous avez un Cohen, il y a des bénédictions spéciales qu'ils peuvent faire, des trucs intéressants. Enfin en gros, pas grand-chose quand même. Donc on a une religion, c'est pour ça qu'on peut comparer beaucoup le rabbin à un pasteur protestant. Il n'y a pas d'ordination, ce n'est pas sacré, ce n'est pas sacral. C'est d'abord un enseignant qui a fait des études. Alors vous me direz en même temps, il a une ordination. J'ai fait partie d'un groupe de catholiques qui s'est battu des années pour qu'un certain Hervé Lissette-Bon, un juif converti qui était en banlieue parisienne, qui avait reçu une licence d'enseignement de l'évêque de Créteil, Monseigneur Sentier, je crois. Alors il a fait un livre qui a de la kippa à la croix, qui a marché du feu de Dieu. 50 000 exemplaires, les sœurs de Bethléem distribuent ça comme des petits pains à la sortie de la messe, c'était merveilleux. Et au dos, il avait mis, voilà, un rabbin devenu chrétien explique tout. Et une des premières choses, il était rabbin à peu près comme moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas ordonné. Moi, je dis souvent catholique, mais monsieur a été séminariste 5 ans. Oui, bah, il était séminariste. Mais il est prêtre? Ben non. Ben, prêtre, c'est simple. Hein. Enfin, je veux dire, oui, tu as été ordonné ou pas. Il y a avant, après. Et comme on est marié, non, mais on est fiancé, mais on est comme marié. Non, mais ben, vous êtes marié, oui ou non. Enfin, c'est un switch off one. Il y a pas. Et il se présentait comme rabbin. C'est pas correct. D'ailleurs, je note, la communauté juive française a été d'une élégance, d'une correction, que ce soit le rabbin Bernheim ou le rabbin Chaim Korsia, le grand rabbin actuel, qui est un type fantastique. Pas un mot. Pas un mot. Imaginez qu'un séminariste qui a fait 5 ans sorte un bouquin, « J'ai découvert la véritable foi, c'est le judaïsme », enfin un bouquin qui vend 50 000 exemplaires en France dans lequel il dit « J'étais prêtre catholique » alors qu'il n'était pas prêtre, hein, qu'il était séminariste. J'espère quand même qu'à un moment, il y a un petit communiqué de la conférence épiscopale, on dit « Bon, alors nous nous permettons d'attirer l'attention sur les propos de monsieur machin, Martin Durand, qu'il n'est pas prêtre. » Les Juifs n'ont même pas fait ça. Mais ils nous disaient privatim, mais vous laissez faire? Vous trouvez ça normal que ce type, qui après va être condamné pour violence conjugale, se présente dans toute la France comme voilà enfin le juif qui a tout compris, alors qu'il est manifestement un gars déséquilibré, et vous en êtes fier? Sous-entendu quand même, shame on you, quoi. Ils avaient raison, la honte soit sur nous, de cautionner et de diffuser. Moi, en contre-exemple, par exemple, je prends Fabrice Hadjadj, que je connais aussi, bon. Là, on est à un autre niveau. Fabrice Hadjadj, il ne va jamais taper sur le judaïsme, il ne va jamais dire le judaïsme n'a rien compris. Voilà, c'est un penseur catholique d'origine juive, il a le droit, comme Lustiger, là, il n'y a pas de problème. C'est très différent comme attitude. Mais ce gars-là, il expliquait, souvent mal d'ailleurs, comment le judaïsme avait tout faux et comment, etc. Enfin, c'était vraiment... Alors, sur le dernier point, le maintien d'un judaïsme vivant, on en parlera plus tard. Alors, combien de temps nous reste-t-il? 20 minutes seulement, a priori. Bonne 20 minutes. Alors, j'ai quelques pages sur un essai qu'on m'a demandé il y a quelques années sur comment les Juifs font de la théologie, dans lequel j'essaye de donner... Bon, je vais en faire ce que je peux et puis on arrêtera. Voilà. La première question, je commence par une affaire dont je vous ai déjà parlé. Hein. Sur la question des rapports entre le christianisme naissant et les juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme Messie, hein, là, si vous n'avez pas lu, lisez Le Christ juif de Daniel Boyarin. C'est un petit livre, il y a 4 chapitres, c'est pas compliqué. Et Boyarin, là, est quand même très pédagogique. C'est un peu évident, mais je vous le fais quand même. Il commence, vous allez dans la rue à New York, ou à Paris d'ailleurs, vous prenez un quidan, et vous dites, c'est quoi la différence entre juif et chrétien? Et normalement, le gars va vous dire, les chrétiens, ils croient en un truc bizarre qui s'appelle la Trinité, que Jésus est Dieu, et les juifs, eux, ils n'y croient pas, premier point. Et deuxième point, les juifs ont plein de commandements rituels bizarres, et les chrétiens, ils mangent du jambon. Voilà. En gros, c'est les deux points que les gens vont dire. Et Boyarin dit, mais au temps du Christ, c'est plus compliqué que ça. Il y a des juifs qui ont une vision complexe de la divinité, dans laquelle la parole de Dieu, la Memra, est consubstantielle à la divinité, d'une manière ou d'une autre. Le Fils de l'homme siégera à côté de la puissance. Donc ce n'est pas encore la Trinité, mais il y a un binitarisme, il y a une complexité de la divinité. Ce n'est pas encore la Trinité, mais voilà. Et que, Et par ailleurs, au 1er siècle, et pendant 2 ou 3 siècles, il y a énormément de chrétiens qui pratiquent les commandements rituels juifs, qui ne mangent pas de cochons, qui font Shabbat et tout. Donc, la différence se joue à un autre niveau. C'est un peu plus subtil que ça. Alors, certains voient le judaïsme rabbinique comme étant dans la continuité fondamentale avec le judaïsme d'avant 70, notamment dans la suite du parti pharisien. Alors, c'est la vision traditionnelle des juifs orthodoxes. Moi, c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois avec Mireille Hadas-Lebel, grande, grande dame de la communauté juive française, assez classique, on va dire, théologiquement. Pour elle, c'est un peu évident que le judaïsme n'a pas substantiellement changé depuis Josias. Enfin, en gros, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a une continuité fondamentale avec ou sans destruction du temple. Le verset célèbre des Maximes des Pères dit, c'est un texte très important dans le judaïsme, qui est lu chaque Shabbat, « Moïse a reçu la Torah au Sinaï, l'a transmis à Josué, Josué l'a transmis aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux hommes de la grande assemblée, on se rapproche du Sanhédrin, et les hommes de la grande assemblée ont dit 3 choses, soyez modérés dans le jugement, formez beaucoup de disciples et faites une haie de protection à la Torah. » Premier verset des Pirkei Avot, c'est l'ancêtre du judaïsme rabbinique. La haie de protection à la Torah, ça veut dire qu'on va avoir des commandements où on va définir les commandements de telle façon qu'on va surprotéger le cœur du commandement. Un truc que vous connaissez tous là-dessus, par exemple, le chapitre de Boyarine, c'est se laver les mains avant les repas. Donc, comme dit Jésus, c'est la tradition des anciens. Vous pouvez lire la Bible 10 fois, la Torah, c'est pas marqué. D'accord ? Donc, les rabbins vont en faire un commandement. Il faut se laver les mains avant chaque repas, c'est obligatoire. Oui, mais c'est pas dans la Torah. Oui, mais c'est les traditions, la Torah orale. C'est là où Jésus s'énerve en disant, pourquoi vous rajoutez des choses ? Moi, j'ai rien contre le fait de se laver les mains, mais c'est pas dans la Torah. Donc, c'est le côté un peu conservateur galiléen de Jésus contre les innovations des pharisiens. Moi, en soi, j'ai rien contre, mais pourquoi vous rajoutez ? Donc, la haie à la Torah, c'est on rajoute des choses de plus en plus pour protéger le cœur du commandement. Et pourtant, comme je disais, le Talmud parle peu des pharisiens, si ce n'est pour les critiquer et leur imputer la chute du Second Temple. Cette façon de comprendre le déroulé historique sous-estime l'importance du judaïsme hellénistique, qui fut si florissant pendant plusieurs siècles. Par certains côtés, dis-je, je pense qu'Roselyne serait d'accord, le penseur qui pourrait prétendre avoir été l'un des plus grands théologiens de toute l'histoire du judaïsme, c'est Philon d'Alexandrie, au sens strict, en grec, théologien, en bas. Il a vraiment réfléchi sur Dieu, l'homme et Dieu. Sa façon de prendre en compte la philosophie grecque a anticipé sur l'œuvre des pères de l'Église, qui souvent d'ailleurs le liront. Et les penseurs juifs du Moyen-Âge, qui ont lu également Aristote. Une autre façon de voir, qui a gagné du terrain ces dernières décennies, de voir le christianisme et le judaïsme comme 2 frères jumeaux, hein, Rebecca's Children, avec l'inconvénient de les voir comme des ismes, donc avec une lecture assez dogmatique, ils seraient alors perçus comme les 2 rameaux survivants issus du judaïsme du Second Temple, sachant que le courant essénien a disparu, tout comme les sadducéens. Donc moi, ma position personnelle, c'est qu'il y a du vrai dans cette approche. On peut voir le judaïsme rabbinique et le christianisme comme 2 religions issues de la souche biblique, mais que c'est en partie forcé. Dit autrement, qu'il y a plus de continuité quand même entre le judaïsme rabbinique et la tradition biblique qu'avec le christianisme. Et que c'est un petit peu trop facile pour les chrétiens, tout d'un coup, de dire « Ah oui, non, mais en fait, on est une religion plus ancienne ou tout aussi ancienne que le judaïsme. » Ça ne me paraît pas, j'allais dire, méthodologiquement et spirituellement sain par rapport à Romains 9:11, la racine qui te porte, etc. Alors, une 3e approche voit dans le judaïsme une religion postérieure au christianisme. Donc, c'est André Paul, exégète français, donc presque un peu provocateur. Ben quand même, un peu provocateur. Ça peut se plaider, hein, il a des arguments. Mais... Voilà. C'est séduisant, le judaïsme rabbinique en tant que tel est indubitablement après le mouvement chrétien. Bon. Et la logique du Talmud et celle du code de Justinien sont contemporaines, mais voilà. Je préfère voir plus de continuité entre la fin de la religion biblique et le judaïsme. Alors, là j'ai... peut-être un peu subtil, mais... en fait, ce qui est difficile, c'est que nos concepts théologiques chrétiens, grâce, péché, rédemption, sacrement, credo, ça ne marche pas dans le judaïsme. Il n'y a pas les équivalents, on ne peut pas traduire. Donc ça, ça nous dépayse. Par exemple, un rabbin, normalement, va vous dire, on n'a pas de théologie. Ben, le concept même de théologie, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne par des réponses juridiques. Bon, est-ce qu'on a le droit de se faire tatouer, oui ou non? Bon, ben, on va faire une réponse. Est-ce qu'on a le droit de faire la PMA? Est-ce que la fécondation hétérologue, c'est cachère ou pas cachère? Voilà les questions que les rabbins traitent. Ce n'est pas le sexe des anges, quoi. Bon. Alors, en même temps, je fais deux petits bémols un peu en souriant. Au fond, toute religion ou toute philosophie doit affronter les questions existentielles fondamentales de l'humanité. Y a-t-il un Dieu ou pas? Sommes-nous libres ou pas? Quelle est l'origine du mal et comment le combattre? Donc, le judaïsme a parlé de mauvais penchant et bon penchant. Bon, moi, donc, j'ai grandi, comme vous l'avez compris, dans le dialogue de chrétiens. J'avais 13, 14, 15 ans. J'étais habitué au discours des juifs qui disent bon, les chrétiens, vous avez un truc absolument barbare, ça s'appelle le péché originel. Mais où vous êtes allé pécher un truc pareil? C'est vraiment complètement affreux et tout. Oui, ben, quand tu regardes le Talmud, le mauvais penchant, c'est en gros la même chose. Donc, vous ne l'appelez pas pareil, mais substantiellement, ça joue le même rôle. Quant à l'existence du péché originel, ben, comme disait Chesterton, il suffit de se lever le matin, c'est le seul dogme qu'on peut visualiser tous les jours facilement, enfin, dont l'existence est quand même certaine. Toute personne qui a vu un enfant torturer une grenouille ou un grand frère taper sur sa petite sœur sait que ben, ça existe, quoi, c'est tout. Alors, on est content, pas content, comment Dieu aurait pu faire, mais bon. Voilà, le Yetzer Hara. Alors parfois, le mot est le même, Esprit Saint, mais ça désigne pas complètement tout à fait la même chose non plus. Voilà. Deuxième observation, donc les Juifs, on peut dire, on est très différents. En fait, ils doivent répondre un peu aux mêmes questions. Et au-delà des différences de formulation, il y a des points communs fondamentaux, par exemple, entre le catholicisme et la tradition rabbinique standard, par exemple sur le libre arbitre. C'est-à-dire qu'aussi loin que j'aille dans le fait que Dieu détermine les événements du monde, je suis libre dans ma réponse. Ce que le judaïsme dit dans le Talmud, tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu, sauf la décision d'aimer Dieu ou pas. Donc, si effectivement Dieu peut nous obliger à croire, où est le mérite? Enfin, bon. Donc la vision rabbinique, comme la vision théologique catholique, insiste sur la liberté de l'homme dans sa réponse, par exemple, pour prendre un exemple. Deuxième chose, alors là, les Juifs n'aiment pas trop le reconnaître, mais Boyarine le reconnaît, beaucoup de choses depuis 2000 ans ont été marquées par le christianisme. Le judaïsme a beaucoup réagi et récupéré des choses dans la tradition chrétienne, ou a développé sa manière de penser grâce aux chrétiens. Alors ça peut être des choses complètement secondaires, apparemment. Il y a une invention chrétienne absolument géniale, c'est le concept de parrain-marraine. C'est génial, ce truc. Donc, les parents choisissent un parrain ou une marraine qui va être un peu un parent de substitution au cas où les parents ont des problèmes, en tout cas être là dans la vie de l'enfant. Alors, au 9e siècle, 8e siècle, les Juifs ont inventé le parrain de circoncision. Alors, ils vont trouver plein de trucs, mais en gros, ils ont trouvé que ce truc chrétien, c'était quand même, ben, je résume, hein, c'était un truc pas con. Donc, maintenant, tu as un parrain de circoncision, etc. Enfin, manifestement, ça n'existait pas autant dans la Torah, ni autant de Jésus. C'est voilà. Alors, les termes d'emprunt ou d'influence sont complètement piégés. Dans les études depuis 30 ans aux États-Unis, parce que quand vous dites à emprunter ou à influencer, il y a toujours un dominant, un dominé. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui imite. Alors, il faut plutôt parler de matrice ou d'hybridation, dit Boyarine. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui circulent, qui sont dans l'air du temps. Il prend l'exemple, par exemple, des cantiques spirituels juifs espagnols du XIIe siècle en zone andalouse. Donc il y a un super débat parmi les spécialistes. C'est les musulmans qui ont lancé le truc, c'est les juifs qui ont lancé le truc, c'est les chrétiens qui ont lancé le truc. Bon, il se trouve qu'au bout de 20 ans, tout le monde fait des cantiques spirituels, les juifs, les chrétiens, les musulmans, qui se ressemblent avec des principes métriques et des principes poétiques analogues. Donc qui a inventé quoi? Ben, à un moment donné, c'est dans l'air du temps. Voilà, donc il faut arrêter de dire quelqu'un a influencé l'autre ou a voilà. Aucune religion n'est une île, et ce depuis le début. On pourrait dire aussi aucune culture n'est une île. Il y a plein d'éléments de la tradition juive qui sont venus par les Perses, comme l'angélologie, par les Égyptiens, par les Grecs, par les Cananéens avant. En fait, le judaïsme, c'est une religion qui emprunte. Alors, voilà, si je vais être méchant, qui emprunte en permanence à toutes les religions, à toutes les cultures environnantes, dit d'une manière qui est une incroyable fabrique matricielle pour synthétiser du religieux, faire quelque chose de propre à partir de quelque chose de différent. C'est une autre manière de voir les choses, plus positive. Voilà. Ou par exemple, on peut comparer Maïmonide et Thomas d'Aquin. Dans leur rapport à la philosophie grecque, il y a beaucoup de points communs entre Maïmonide et Thomas d'Aquin. C'est la même époque, on lit la philosophie grecque, on essaye de... Alors, il y a un débat qui est très très intéressant depuis une quinzaine d'années. Enfin, un des penseurs vraiment passionnants d'aujourd'hui, il s'appelle Benjamin Sommer. C'est le prof de judaïsme à Harvard. Il a sorti un bouquin il y a 15 ans qui s'appelle « Les corps de Dieu », « The Bodies of God ». Alors moi, j'ai un souvenir marquant parce que j'ai un ami rabbin qui était débordé dans la vie. Il répondait toujours très très rapidement à mes mails avec beaucoup de gentillesse, mais en 15 ans, il ne m'avait jamais fait un mail. Et un jour, je reçois un mail. Marc, tu dois lire ce livre, signé. Donc là, quand un rabbin vous dit ça, vous dites, qu'il vous dit une fois tous les 15 ans, vous dites là, effectivement, il faut le lire. Bon. Je n'ai pas été déçu du voyage. Plusieurs thésards de Jean-Pierre Sonnet à la Grégorienne travaillent sur ses intuitions. En gros, il dit une chose simple, il dit, cette idée de Dieu pur esprit, immatériel, machin, etc., c'est une idée grecque que partagent les auteurs chrétiens et juifs du Moyen-Âge et de l'époque patristique. Mais dans la Bible, Dieu, il a un corps. Il n'a pas un corps comme nous. Hein. Il a un corps lumineux, il a un corps glorieux. Enfin, Isaïe voit, Dieu avec un manteau dans le temple. Enfin, Moïse voit le dos de Dieu. Ben, s'il y a le dos, il y a une face, etc. Donc, il nous oblige à reconsidérer notre conception que, théologiquement, ah ben, bien sûr, Dieu n'a pas de corps. Il dit comment ? Regardez de près. Ben, vous verrez qu'à peu près dans toute la Bible, clairement, Dieu a un corps. Alors, on me dirait, mais pas comme le nôtre. D'accord, on concède le point aisément, mais ce n'est pas absurde de parler de corps de Dieu. Voilà. Alors, le judaïsme est donc éminemment pluriel dans sa temporalité très longue, très varié dans ses expressions. Donc, comment comparer le judaïsme arabe du Yémen au XVIIIe siècle avec le judaïsme allemand du XIXe ? C'est deux mondes très très différents. En même temps, il y a une identité commune forte, alors souvent plus généalogique que proprement religieuse, qui les constitue comme peuple d'Israël, Am Israël ou communauté d'Israël. Partageant la même langue sacrée, les mêmes écrits inspirés, les mêmes rites fondamentaux, circoncision, Shabbat, Kashrut, Nida, les lois féminines, qui sont des rites pas d'ailleurs spécifiques aux Juifs au départ. La circoncision, il n'y a pas que les Juifs qui faisaient la circoncision. C'est un truc très très ancien, des pasteurs du désert d'Arabie, on ne sait pas trop comment c'est né d'ailleurs. Là aussi, vous avez des éléments comme la circoncision qui sont des trucs ultra archaïques, qui ont 5000 ans ou 4000 ans, et puis des éléments spirituels ou mystiques qui sont, on va dire, très récents, très modernes. Dans le judaïsme, vous avez les deux. En gros, vous pouvez, on imagine un rabbin yéménite avec ses rites là, faisant circoncision, et puis Emmanuel Lévinas, pour prendre un exemple ultra français, donc un judaïsme de l'éthique, très philosophique, marqué par toute la philosophie grecque et européenne, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui unit, ce qui doit unir normalement, c'est un concept qui m'est cher, c'est le concept de l'amour d'Israël, Ahavat Israël, que pour moi Jésus avait, Paul avait, c'est-à-dire s'exprimer. On peut critiquer sévèrement des choses, mais on s'exprime avec l'amour d'Israël. Ce qu'on devrait tous avoir dans l'Église quand on parle de l'Église. Alors, on peut critiquer des choses dans l'Église, mais il faut le faire avec l'amour de l'Église. Ahavat, l'amour de la communauté et l'amour des frères. C'est très important dans le judaïsme. Bon, il y a quelques sectes bizarres, comme chez nous, mais bon, en gros, c'est ça. Voilà. Et Exode 24:7, j'en ai parlé. Torah écrite, Torah orale. Oui, ça vous dit quelque chose, Torah écrite, Torah orale. Hein. Donc le judaïsme rabbinique est basé sur le fait que il y a la Torah, évidemment, qu'on a écrite, la même que nous, la loi de Moïse, par écrit, et elle est interprétée par une Torah orale qui, dans la théologie rabbinique, a également été donnée au Sinaï à Moïse et qui explique, complète, la Torah écrite. Et en réalité, comme je vous l'ai montré sur le mariage, supplante. Donc il y a deux Torahs. Alors c'est assez proche de la position théologique catholique alors d'avant Vatican II sur les deux sources de la théologie, la tradition et l'écriture. Où la tradition, pour un catholique, était quasiment au même niveau que l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Donc il y a des points, c'est la tradition catholique que ceci ou cela, même si ça n'a pas été défini dogmatiquement. Alors, On dit aussi beaucoup que le judaïsme, c'est le débat. Parce que dans le Talmud, ce qui distingue le Talmud du codex de Justinien, c'est que le Talmud dit le débat. Rabbi Machin dit, alors c'est pour ça, Rabbi Machin dit que, autre interprétation, Rabbi truc. Mais enfin, à la fin, légalement, il y a quand même une décision. La circoncision, c'est le huitième jour, c'est pas le septième, c'est pas le neuvième, c'est comme ça. Il y a des trucs, voilà. Donc. Mais on a le processus intellectuel qui arrive à la décision finale, ce qui est très intéressant et qui est assez unique aussi dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a, par moment, on prend le temps de nous donner l'avis de rabbins minoritaires. Il y a ça aussi à la Cour suprême des États-Unis, très intéressant. Le dissenter, là, il y a eu la décision sur Trump, là, il y a 6 contre 3. Ben, celui, le juge, naturellement, les 3 ultra-conservateurs pro-Trump, c'est 3 des 6 catholiques de la Cour. Hein. Bon, ben, passons, Alito, non. Bref. Celui qui a rédigé l'opinion, Kavanaugh, le truc minoritaire, il fait quand même 40 pages. Il a perdu. Il y a eu un vote, il a perdu. Mais on a tout son raisonnement juridique. Dans le Talmud, c'est un peu comme ça. On a parfois le raisonnement juridique de celui qui a perdu. Alors, autre point très catholique, il y a un passage, après je vais peut-être arrêter là, je vais finir avec ça, sinon je vous donnerai le texte. Il y a un débat à un moment, comment les rabbins décident, justement. Eh bien, c'est comme dans les conciles œcuméniques, à la majorité. Il faut une bonne majorité, normalement. Alors là, on discute un point de loi, et il y a un certain rabbi Eliezer, qui est tout seul pour dire « Mais non, mais vous avez tort, mais c'est évident, le raisonnement, toc, 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 sur un point de droit, c'est ça la solution. » Et les rabbins disent « on n'est pas d'accord, nous, on arrive à la conclusion opposée. » Et Rabbi Eliezer dit « Enfin, si j'ai raison, Dieu, écoute-moi, que ce mur s'incline de 45 degrés. » Alors le mur s'incline de 45 degrés. Les autres rabbins disent « Les murs ne sont pas des témoins dans les affaires juridiques. » Rabbi Eliezer dit « que l'arbre qui est dehors, on est en plein hiver, porte des fruits. » Et l'arbre porte des fruits. Les rabbins disent les fruits ne sont pas des bons témoins. Et puis, il fait faire un troisième miracle, où Dieu lui donne raison. Rabbi Eliezer a raison. Et les rabbins disent, la Torah n'est plus aux cieux, elle est sur terre, et c'est nous qui décidons. Et à ce moment-là, une voix se fit entendre des cieux qui dit en riant, « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. » C'est-à-dire Dieu, il a donné la Torah aux hommes. Alors, traduction catholique, l'un des schismes les plus terribles qui a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui, pour moi, terribles dans l'histoire du christianisme, c'est le schisme donatiste en Afrique du Nord, qui n'a pas fait le chemin de l'islam. Il y a eu une église parallèle pendant 3 siècles. Augustin s'est beaucoup opposé aux donatistes. Donc, que faire des chrétiens qui ont apostasié pendant les persécutions? Les donatistes viennent des familles de martyrs. Jésus a dit, il faut être prêt au martyr, non, quand on est chrétien. C'est marqué dans tous les bons livres, hein, dans l'Évangile. Quiconque m'aura renié devant les hommes, terminé. Hein. Bon. Donc, quand, après la persécution, des prêtres, des évêques et des milliers de fidèles arrivent la bouche en cœur, on peut revenir, non, mais on a eu un peu peur, mais on peut revenir. Ben, les donatistes disent, ben non, les amis, c'est marqué dans l'Écriture, c'est terminé. C'est terminé. C'est le but du jeu du martyr. Si au moment du martyr, après tu reviens, ah non, 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 mais en fait, moi je dis ce que vous voulez, puis tu reviens après, ça ne marche plus. Eh bien, Saint Cyprien de Carthage et le pape ont dit, oui, le Nouveau Testament dit ça, mais nous, avec l'Esprit Saint qui est dans l'Église, on dit, on va réintégrer les lapsis. Ils ont dit aux donatistes, l'Église a l'autorité pour décider, parce qu'on a l'Esprit Saint, ici et maintenant, dans la communauté des évêques. Et oui, parce que le pape, à Rome, il y avait un débat énorme aussi d'ailleurs, les papes, des antipapes, les papes bougeaient. Bon, beaucoup de gens avaient de la sympathie. Les chrétiens pieux, évidemment, c'est comme aujourd'hui, les chrétiens très très dévots, ils avaient de la sympathie pour la position donatiste, évidemment. Surtout quand vous êtes d'une famille de martyrs. Vous dites, non mais c'est trop facile quand même, moi j'ai perdu mon frère et mon neveu, et puis il y a des gens là, qui sont allés faire les salam alek au temple, et maintenant ils sont là au premier rang de la chorale et ils dirigent le catéchisme. Ça va pas. Ben quand même, on mélange les torchons et les serviettes. Donc, on dit, l'Église a l'autorité. Mais l'Écriture dit clairement ceci. Les donatistes, ils ont le Nouveau Testament pour eux. Eh bien, les Saint-Cyprien, les évêques disent, ben, l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé que nous avons l'autorité dans l'Église de décider que. Donc, même si on a fait autrement. Donc, ça peut jouer sur beaucoup de choses, hein, encore aujourd'hui. Voilà, donc... Voilà, on va peut-être arrêter là, hein, parce que j'ai déjà dit un certain nombre de choses quand même, donc faut pas. L'indigestion est pas bonne.
Ah, merci beaucoup. Je laisse à Bertrand d'annoncer le programme de cet après-midi. Est-ce que je peux me permettre encore deux questions? Mais c'est du rab. Moi, j'ai fait mes écoles de, disons, ma première approche du judaïsme avec Étienne Ostier. Et j'ai lu à l'époque Abraham Heschel. Voilà. Et j'ai toujours compris que la synagogue, que je crois être une maison d'études plus qu'une maison de prière, que la synagogue avait aboli, enfin, avait enregistré le fait que les sacrifices étaient abolis au profit d'une nouvelle forme de sacrifice, hein, presque un sacrifice d'action de grâce qui est le débat. Le débat, le travail intellectuel aurait pris la place des sacrifices d'expiation du temple et des sacrifices marchands du temple. Ce qui, moi, me semble d'une très heureuse, un très heureux dénouement. J'ai une deuxième question. Plusieurs fois, vous avez parlé de l'importance de la terre, bien sûr, la terre sainte, bien sûr, hein, et la place de la création aussi par rapport. Et je me suis demandé, parce que j'ai souvent collecté moi aussi dans l'Ancien Testament, d'étranges versets où quelqu'un a péché, par exemple trompe sa femme, et la terre en est profanée. Y a-t-il dans la tradition actuelle du judaïsme quelques recherches sur l'écologie? Voilà quelques bonnes questions. Pour finir, pour nous mettre en appétit, avec mes remerciements beaucoup.
Alors rapidement, ouais, alors Abraham Heschel, Les bâtisseurs du temps, si vous avez un livre spirituel à lire, c'est un petit bijou. Moi, je le recommande à tout le monde depuis 50 ans. Les bâtisseurs du temps d'Abraham Heschel, 1957, titre anglais de Shabbat. C'est vraiment la spiritualité juive dans ce qu'elle a de meilleur. Alors il se trouve que dans la suite de du papier là, sur la théologie juive, je commente, en fait, pour moi, s'il y a un juif qui mérite au XXe siècle le nom de théologien, c'est bien Heschel. Donc il a écrit une somme de 3000 pages en hébreu, qui s'appelle Torah Min HaShamayim, que je n'ai pas lu. Mais 20 ans après, il a fait est sorti par deux de ses élèves une version anglaise, en anglais, abrégée, de 1000 pages, mais qui est très claire. C'est un petit bijou, et tous les grands dossiers de la théologie sont traversés à la manière juive, c'est-à-dire avec les débats du Talmud. Alors, étude ou prière, ce qui est sûr, c'est que l'étude a une valeur religieuse en soi. Donc, une famille juive, par exemple, peut payer une chaire pour honorer la mémoire d'un défunt, c'est bien. C'est pas donner 50 messes ou 100 messes pour la mémoire du défunt, c'est une chaire. Alors, la synagogue, maison d'études, je pense que les maisons d'études dans le Talmud sont un peu distinctes des synagogues. En tout cas, les synagogues d'Égypte sont des maisons de prière aussi. Il y a études, mais il y a aussi prière. Au sens de Abraham Vinogradsky, sacrifice des lèvres qui prient et qui cherchent Dieu, mais dans le chant, la prière universelle, etc. Dans les synagogues, on prie aussi quand même pas mal, hein, concrètement les offices du jour. Bon. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça se rapproche plus d'un temple protestant, ce n'est pas un lieu sacré. En même temps, les juifs sont très sensibles au fait que dans les églises catholiques, il y a une petite lumière rouge qui signale la présence de Dieu, qui rappelle la Ner Tamid, la lumière éternelle qu'il y avait dans le temple. Hein, lisez le livre de Samuel, donc cette idée que Dieu est toujours présent au monde. Alors sur la terre sainte, c'est une expression qui n'est pas biblique. Que les chrétiens emploient, à mon avis, on a barbaridad totale. Les chrétiens devraient complètement renoncer. Toute la terre est sainte, ou il n'y a aucune terre qui est sainte, mais le concept de terre sainte, déjà ça commence et ça finit où, on le sait encore moins que les juifs, devrait être complètement proscrit. Le problème, c'est que c'est une facilité pour les pèlerinages, ça évite de dire Israël / Palestine, donc on dit on va en terre sainte. Mais non, il n'y a pas de terre sainte pour un chrétien. On n'est pas tenu de faire le pèlerinage à la Mecque ou à Jérusalem, enfin on peut être chrétien toute sa vie en France, il n'y a aucun problème, il ne vous manque rien. On n'est pas obligé d'aller en Galilée ou à Jérusalem, il n'y a aucun problème. Donc là, on fait du fétichisme qui n'est absolument pas chrétien. Donc, alors après, sur la profanation de la terre, je pense qu'elle est d'abord morale, éthique, et il y a des réflexions maintenant aux États-Unis, en Israël, en France, pour de type Laudato Si, enfin de type de réflexion écologique, pour montrer comment la terre abusée aussi réagit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une base dans l'écriture sur la moralité de ce qui se passe sur la terre. Donc on n'occupe jamais... Enfin, la terre existe comme un personnage. C'est pour ça qu'elle avale Akan, qu'elle peut avaler des méchants et qu'elle peut vomir ses habitants si ses habitants ne sont pas éthiques. Ce qui a des conséquences quand même fortes. Et c'est pour moi la critique religieuse fondamentale que je ferai à la politique d'Israël depuis une vingtaine d'années, en tout cas dans les trois dernières années. C'est-à-dire que le fait de renoncer à certains critères éthiques se paiera tôt ou tard. Dans votre propre tradition religieuse, je n'ai pas besoin de faire appel à l'ONU, aux droits de l'homme ou à l'Évangile, dans votre propre tradition religieuse, et des juifs le disent d'ailleurs, des juifs le disent très clairement. Moi, je connais des juifs français antisionistes, notamment un rabbin syrien qui sort des bouquins en ce moment, que je vous invite à suivre, il s'appelle Gabriel Haggai, qui connaît très 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 bien l'hébreu, qui est très antisioniste, et Gabriel, il a il connaît très très bien la tradition juive, il a des propos très très sévères là-dessus, très très sévères.
Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être, indépendamment d'autres questions. Merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour avant de clôturer ? Oui.
Oui, j'ai pas très bien compris, en fait. Du coup, entre le temple et la synagogue, parce que dans l'évangile, on a le temple et la synagogue, c'est deux choses différentes, parce qu'on parle quand même de sacrifice au temple. Les juifs de l'époque avaient deux manières de pratiquer.
Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est la position de Jésus qui, par certains côtés, est très critique du temple, qu'ont fait les marchands. Vous avez fait une maison d'Elin, mais il va. Il va prier au temple. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est Luc, qui écrit donc à la fin du 1er siècle, vers 95, à un moment où il n'y a plus de temple. Il pourrait dire les chrétiens prient dans les maisons. Mais non, il décrit les apôtres qui vont prier au temple. Pierre et Jean vont prier au temple. Paul, quand il arrive à Jérusalem, il va prier au temple. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de condamnation brutale, totale du temple. Il montre que les chrétiens prient chez eux, mais ils prient aussi au temple. Jésus priait à la synagogue. Pour moi, c'est un petit peu le « et » de Jésus. Par exemple, Jésus va prier la nuit tout seul sur la montagne. Ok ? Ça va, je ne vous apprends rien. Ok. Donc, par ailleurs, le Shabbat, il est où ? À la synagogue. Il n'y a pas incompatibilité entre la prière personnelle privée ou, dit autrement, Jésus invente une prière portative rapide qui s'appelle le Notre Père. Une espèce de bidouillage de la Hamida pour gens pressés. Donc on passe de deux pages à cinq lignes. Il invente une forme de piété populaire avec une prière facile qu'il fabrique à partir des prières existantes. Mais ça ne veut pas dire, une fois de plus, qu'il ne va pas dire la prière longue à la synagogue le Shabbat. Il n'y a pas incompatibilité entre les deux. Et le temple, c'est pareil. Donc les chrétiens après, ils ont un culte domestique. Les églises, ça va arriver à partir seulement du 4e siècle. On se réunit dans les maisons. Et ce qui est frappant, c'est que Luc, il pourrait garder que les maisons, puisqu'il sait qu'en son temps, c'est un culte domestique. Donc laisse tomber le temple. Mais en fait, Luc se refuse à... Alors, Luc a une main tendue extraordinaire à quatre groupes de personnes dans son œuvre. Les Samaritains, pareil chez Jean, les Samaritains sont des gens très bien, vous prêchez 5 minutes, ils se convertissent tout de suite. Les Baptistes, c'est des gens très très bien, acte 19. Nous ne savons même pas qui est l'Esprit Saint. Ah bon ? Et quel baptême avez-vous reçu ? Celui de Jean. Ah non, vous expliquez, parce qu'il y a le baptême de Jésus. En 5 minutes, pof, ils sont baptisés, ils reçoivent l'Esprit Saint, réglé. Baptistes, chrétiens. Les pharisiens, parce qu'il y a l'ami Gamaliel. Gamaliel, c'est quelqu'un de très très bien, Gamaliel, respecté de tout le peuple, qui dit « mais laissez-les tranquilles ». Donc, Luc, il va montrer ensuite dans les discours de Paul, pharisien contre sadducéen, Paul, il dit « je suis pharisien, fils de pharisien, les pharisiens croient en la résurrection, nous aussi ». Luc, il dit aux pharisiens « mais vous nous créez des problèmes, mais on est comme vous, on met au centre du credo la résurrection. Ben nous, c'est pareil. On dit simplement que la résurrection de Jésus, elle annonce la résurrection finale. Mais vous croyez à la résurrection finale ? Nous aussi, on partage la même foi. Dieu veut la vie, il est capable de donner la vie. C'est pas ça l'important. Alors, on n'est pas si éloigné. Bon. Et même les Sadducéens, les prêtres. Parce qu'au fond, Paul, à la fin de sa vie en Romains, il se compare à un prêtre. Luc va décrire un Paul qui va faire l'offrande dans le temple avec le vœu. Donc il dit non, mais on respecte les prêtres, on respecte les rites. On ne les fait plus, d'ailleurs on ne peut plus les faire puisqu'il n'y a plus de temple. Mais on condamne pas en bloc. C'est très étonnant cette ouverture.
Merci beaucoup. Alors on peut prendre une dernière question avant d'aller se rassasier un petit peu. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui.
Je me suis laissé dire que les femmes lisaient la Torah et les hommes le Talmud.
Alors là, j'ai une anecdote en direct parce que quand on a visité donc New York en 2003 et 2004, on a visité ce qu'on appelle la Yeshiva University, qui appartient à un courant qui a fasciné le cardinal Lustiger, parce que c'était, je pense, un petit peu sa position, qui s'appelle la moderne orthodoxie, l'orthodoxie moderne, qui a été fondée par un rabbin de Boston, et qui est orthodoxe, mais quand même assez ouvert. Et le slogan de l'université, c'est Torah Umada, la Torah et la science. Donc ça donne beaucoup de médecins, d'avocats, c'est des gens qui ne condamnent pas les études profanes. Et donc, on visite cette université où il y a 11 000 ou 12 000 étudiants maintenant, et ils nous présentent ceux qui font. Alors déjà, il y a des écoles pour garçons, des écoles pour filles. Les écoles pour garçons, ils nous expliquent que chaque matin, les 4 heures du matin, c'est Talmud et religion. L'après-midi, on fait histoire, mathématiques, anglais, enfin, des trucs faciles. Quand les enfants arrivent en équivalent troisième, classe de troisième, ben chez les juifs, il y a des gens pas doués, hein, ou moins doués. Hein. Bon. Donc il y en a qui rament. Donc là, on dit, bon, ok, vous allez faire chaque matin 2 heures de religion. 2 heures. J'attends des écoles catholiques où chaque matin, il y a 2 heures de théologie chaque matin. Donc ils font 2 heures, et le reste du temps, on fait le reste du programme. Et alors les filles, alors justement, après, quand les garçons montent à Yeshiva, il nous explique, ben les filles, effectivement, elles font la Bible. C'est facile, la Bible. Donc, les garçons font le Talmud, c'est quand même plus compliqué, juridiquement, et les filles font la Bible. Donc, de fait, chez les juifs orthodoxes, c'est comme ça. Parce qu'au fond, ça compte pas. Puisque, je dis même juridiquement, c'est intéressant de la connaître, mais c'est décoratif. Ça illustre mon premier point que je vous ai dit au début. Ce qui compte, c'est le Talmud, pas la Bible. Donc, d'ailleurs, je reviens à Isaïe 53, des juifs normaux, je veux dire, qui ne sont pas des étudiants, bah, les textes qui ne sont pas lus, mais comme un catholique qui lit pas la Bible et qui va à la messe tous les jours, c'est déjà pas mal, bah, il va connaître les textes qu'on lit à la messe tous les jours, c'est-à-dire 12% de l'Ancien Testament et 84% du Nouveau, mais ce qui n'est pas lu, il ne connaît pas. Anani et Saphir, vous pouvez aller à la messe 100 ans tous les jours, vous ne l'entendrez jamais, c'est comme ça.
Bon, un immense merci au père Rastoin. L'applaudir très fort. Alors, nous reprenons...